France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Renault, un héritage français. Chapitre 1, Louis Renault, en force. Mes parents avaient toujours acheté des Renault. Ils avaient d'abord eu une 4L, puis une R14, celle en forme de poire, puis une R11, et enfin une R19, par habitude.
Renault 19, pourquoi vivre sans elle ?
Je crois qu'ils faisaient ce choix parce que les Renault étaient des voitures à vivre et pas des voitures à se la raconter. En plus, Renault était une entreprise publique, elle appartenait un peu à chacun d'entre nous. C'était une entreprise sociale qui traitait correctement ses salariés. C'était aussi un symbole de la France dans les années 80 et 90, une France plus colbertiste qu'aujourd'hui où l'État intervenait davantage dans la vie économique, même si c'était en train de changer avec la grande vague des privatisations. Et puis un jour, boum, ils ont acheté une Citroën.
Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous.
Ça devait être en 1998. Rétrospectivement, ça marquait pour eux et pour nous la fin d'une époque. J'ai récupéré la R19 pour faire un stage dans la presse quotidienne régionale. Ensuite, ma sœur en a hérité parce que le campus de sa fac était loin de la ville. Et enfin, elle a fini chez mon cousin, puis dans un fossé sur une bretelle d'autoroute, même si lui, heureusement, n'a rien eu. Toujours est-il que mes parents avaient maintenant une Citroën et que personne ne s'était rendu compte du changement fondamental que cela impliquait dans leur rapport au monde social, peut-être même pas eux d'ailleurs. Je ne crois pas qu'ils aient consciemment abandonné Renault, ni même que ce soit Renault qui les ait consciemment abandonnés. Disons qu'ils se sont éloignés, ils n'avaient plus autant d'atomes crochus, ils étaient devenus indifférents l'un à l'autre. Renault visait l'internationalisation et la rentabilité. Mes parents aspiraient plutôt à se déplacer d'un point A à un point B. Leur relation était devenue on ne peut plus utilitaire.
Renault ouvre son capital. Vous pouvez devenir actionnaire.
De fait, en 1996, Renault avait été privatisé. 4 ans plus tôt, les usines de Billancourt avaient été fermées. La plupart des voitures sortaient d'usines en Slovénie, au Maroc, en Espagne, en Turquie, en Amérique du Sud, en tous les cas bien davantage qu'en France. Et en plus, on les mettait en concurrence entre elles, ces usines, comme si la concurrence entre constructeurs ne suffisait pas. Enfin, quand on a vu l'un des PDG de la firme, Carlos Ghosn, organiser le mariage de sa fille à Versailles, puis s'évader d'une prison japonaise dans une malle, on a eu encore plus de difficultés à s'identifier aux voitures à vivre, à ressentir un lien particulier avec ce losange qu'on voyait s'afficher au devant des calandres.
Ce serait dans cette malle géante, normalement destinée à transporter du matériel audio, que Carlos Ghosn aurait pris la fuite.
Mais ne soyons pas bégueules pour autant. Il y a un héritage Renault en France et il est très important, même s'il se voit moins qu'avant et qu'il s'est dilué dans la mondialisation. Un héritage industriel avec une dizaine d'usines dans l'Hexagone, sans compter les sous-traitants. Un héritage technologique avec environ 500 brevets déposés chaque année. Un héritage social, car les ouvriers de Renault ont fait avancer les revendications des salariés, servant d'étalon pour toute l'industrie. Un héritage historique enfin, car on doit à Renault une partie de la victoire des Alliés lors de la Première Guerre mondiale, et c'est par cela que nous allons commencer.
L'attaque allemande sur Compiègne a été entièrement stoppée. L'attaque suivante a eu lieu au 15 juillet dans la région de Reims, et l'armée de Bourreau a tenu victorieusement. Après, nos contre-attaques qui avait été partiel déjà du côté de Grivenne, par là, avec des chars légers, alors avec des chars Renault. La grande attaque a été déterminante, surprise complète pour les Allemands, qui s'étaient aventurés dans ce doigt de gant qui allait jusqu'à la Marne, et ont été obligés de retraiter, et très vite. À partir de ce moment-là, tous les chars Renault qui existaient ont contribué aux contre-attaques sans arrêt, dès que des unités nouvelles étaient créées, sortaient de Sercotte, on les envoyait immédiatement à l'attaque, et c'est là où, à la fin, en 18, le général Ludendorff a reconnu que l'armée allemande était perdue et que cette défaite était due à l'emploi des chars français.
C'est un Allemand qui le dit, le général Ludendorff. La France a gagné la guerre en grande partie grâce à un homme dont le nom est Louis Renault. Le 11 novembre 1918, il est l'un des héros de la France victorieuse. Il a 41 ans. Son biographe Emmanuel Chadeau le décrit dans son bureau de Billancourt, entouré par 80 hectares d'ateliers, dans des usines presque neuves qui sont les plus grandes de France. Peu enclin à manifester sa joie, il sourit quand même au spectacle de ses collaborateurs qui se congratulent de la victoire du pays. Chadeau décrit le luxe de ce bureau, la table de travail Louis XV, les gravures posées sur les boiseries, les grandes bibliothèques, les éclairages qui reposent l'œil, le billard en cuir de cordoue. Renault sait qu'il est un héros, qu'il a mis toute son énergie au service de la France et jeté ses usines dans la bataille, qu'il entre dans l'histoire aux côtés des plus grands généraux, bref, qu'il a remporté la guerre du matériel. Cette guerre, Louis Renault ne l'a évidemment pas gagnée seul. Son action a été nécessaire mais pas suffisante au succès de la mobilisation industrielle. De nombreux hommes et bien plus encore de femmes ont permis cette victoire par leur travail et par leur dévouement. Nous avons retrouvé dans la salle des archives le témoignage de l'une d'entre elles, une femme qui a travaillé, adolescente, dans les usines Renault de la Grande Guerre. Elle s'appelle Lucie Beaumont et l'archive date de juin 1985.
J'étais dans la visserie, on faisait uniquement des vis. C'était une machine automatique, ça marchait tout seul, il fallait la régler surtout.
Il y avait beaucoup de femmes à ce moment-là qui travaillaient?
Oh, énormément, il y avait quelques hommes qui étaient réformés pour infirmité ou quelque chose, on était presque toutes des femmes.
Car c'est des femmes qui prenaient les emplois des hommes qui
étaient... Ben évidemment, oui.
Il y avait beaucoup de très jeunes filles comme vous?
Ben il y en avait quelques-unes, mais pas beaucoup. Hein. Vous savez, moi j'étais très très jeune. Hein. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas de contrôle. On avait un carnet de travail et à partir de 13 ans, on pouvait travailler. Alors là, j'avais des papiers d'une amie de 16 ans. J'étais toute petite, on avait du mal à croire que j'avais 16 ans, mais enfin on l'a pris. Et j'ai travaillé chez Renault, sur l'atelier 33, je m'en rappelle.
Carrément la grosse industrie.
La grosse industrie, oui. Alors on travaillait le jour et la nuit. Alors des fois, j'avais des camarades qui voyaient que je tenais plus le coup, ils me faisaient un lit sur les copeaux pour que je dorme.
Vous travailliez même la nuit?
Même la nuit, oui, on faisait le jour et la nuit. Et puis alors les nouvelles à Paris, je voulais, c'était les taupes, c'était, on avait peur des bombardements. Et puis la grosse Bertha qui avait des dégâts dans le quartier où j'habitais. Et puis ma mère était toujours à l'hôpital. Et elle est morte quelques jours avant l'armistice. Voilà.
Le courage de Lucie Beaumont fait écho à celui des 8000 hommes qui, en septembre 1914, ont arrêté la progression des Allemands en direction de la capitale. Le général Gallieni avait alors réquisitionné en deux jours 1500 taxis parisiens pour convoyer des troupes sur le front. Ces taxis de la Marne, robustes et infatigables, étaient des taxis Renault.
Si les taxis Renault sont à l'origine de la victoire de la Marne, c'est au camion Peugeot que l'on doit les ravitaillements et mouvements de troupes de 1918.
En septembre 1914, alors que ses taxis s'élancent vers la Marne, Louis Renault court d'un bout à l'autre de la France. Il improvise un atelier à Lyon, puis on le retrouve à Bourges pour des essais mécaniques. Et maintenant, il est à Bordeaux où s'est replié le gouvernement, présentant son plan industriel pour faire gagner le pays. Renault prévoit de fabriquer des obus à une cadence jamais expérimentée, mais aussi des moteurs, des avions et des camions par millions et par millions. Il s'apprête à devenir le plus gros fabricant de matériel de guerre du pays, celui qui fournira à la France l'arme décisive qu'il a inventée pour gagner, un char d'assaut léger, révolutionnaire, capable d'enjamber les tranchées, un projet dont il s'est occupé personnellement chaque jour en fervent patriote, à une époque où, rappelons-le, les petites filles et les petits garçons de France étaient élevés dans la haine de l'Allemand. 4 ans plus tard, en ce 11 novembre 1918, la France a donc gagné la guerre. Le maréchal Pétain, vainqueur de Verdun, signe un communiqué qui rend hommage à Louis Renault. Ils sont les deux héros français de la Première Guerre mondiale, ils seront le déshonneur de la Seconde.
Renault, un héritage français, une série en 6 épisodes de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Cornaer.
C'est dans cette resserre au fond du jardin familial que Renault de Billancourt mit au point sa prise directe. étude déposée en septembre 1898. Cinq ans plus tard, les frères Renault construisent un trentième de la production automobile française. Leurs rivaux ont pour nom les frères Peugeot.
Mathieu Flonneau, vous êtes historien, enseignant-chercheur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des mobilités et de l'automobilisme. Alors nous avons commencé cette histoire à un moment où Louis Renault est déjà un très grand industriel de l'automobile. Peut-être qu'il faut remonter un petit peu en arrière. Comment cette personnalité émerge-t-elle avant-guerre ?
Louis Renault est un pionnier de l'industrie automobile. Et lorsqu'en 1898, il dépose le brevet de la prise directe...
Qu'est-ce que c'est la prise directe ?
C'est une boîte de vitesse révolutionnaire à l'époque qui permet en palier de démultiplier les capacités d'un moteur. Moteur qu'il bricolait dans l'arrière-boutique familiale, si j'ose dire, mais à Boulogne, dans un atelier qu'il s'était concocté et dès l'âge de 14 ans, alors qu'il est rétif aux études qu'on lui demande de suivre déjà à cet âge. Rappelons qu'il n'a pas réussi le concours de centrale, alors que l'un de ses grands rivaux entrera à l'école polytechnique. Louis Renault est un autodidacte de la mécanique et après avoir visité, jeune garçon, l'exposition universelle de 1889, après avoir vu des tricycles automobiles, après avoir vu les débuts de l'automobile, eh bien il a décidé, avec la méfiance familiale hein, qui l'entoure, c'est le dernier enfant d'une fratrie où ils sont cinq, il y a une sœur, trois garçons et lui-même, le plus jeune, eh bien, il décide de se lancer dans cette mécanique. Et c'est vraiment en 1898 que Renault apparaît. Il lance son premier modèle après une anecdote célèbre qui mobilise d'ailleurs l'histoire parisienne, puisqu'il a réussi le soir de Noël à monter et à faire une démonstration aux amis quelque peu fortunés de la famille que, eh bien, il était possible de monter la butte Montmartre. Alors aujourd'hui, il y a trop de voitures sur la butte Montmartre, on n'en veut plus. À l'époque, c'est une grande nouveauté. Il y a une plaque, d'ailleurs, place du Tertre, qui rappelle que là, vous avez un des débuts de l'industrie automobile française.
Alors quand on se remémore au fond ces premières années de Louis Renault dans une resserre, dans le jardin de ses parents, on ne peut pas s'empêcher de penser au mythe de la Silicon Valley, de Steve Jobs qui lance dans un garage, comme tant d'autres manias de la Silicon Valley, des entreprises qui vont au fond révolutionner une partie de l'économie et puis révolutionner aussi la façon dont on vit. Qu'est-ce qu'on peut faire comme parallèle, au fond, entre ce début de XXe siècle dans la région parisienne et ce qui s'est passé 100 ans plus tard dans la Silicon Valley, Mathieu Flonneau ?
C'est ce monde du tinkering, du bricolage. Ce que les anglo-saxons appellent tinker, c'est cette manière eh bien, d'ajuster des inventions qui vont devenir des innovations de grande diffusion. L'informatique, la high-tech numérique est dans cette continuité-là, les smartphones et autres. Il est clair que l'Ouest parisien est particulièrement ouvert à la réception de cela et toutes les communes de l'Ouest parisien, Suresnes, Levallois, Asnières, vont accueillir Boulogne, bien
évidemment,
sûr,
Boulogne bien
vont
encore.
Accueillir des automobiles.
Donc en 1901, Renault Frères lance un premier atelier de fabrication d'automobiles. Il fabrique des voitures pour de riches amateurs. Ça n'est pas du tout l'idée de la voiture en série qui sera l'idée de la Ford T aux États-Unis du côté justement de Ford.
Exact. Toutefois, Louis Renault participe quand même dans des compétitions automobiles qu'il remporte, et ceci est très important parce que pour la publicité de sa marque, c'est quelque chose qui a un rapport immédiat. Il participe dans les compétitions de petites voitures. Donc ce sont effectivement des voitures chères, très chères au départ, mais moins chères que d'autres. Et de ce point de vue-là, Louis Renault est assez ouvert, eh bien non pas parce qu'il ne faut pas commettre d'anachronisme évidemment, mais il est assez ouvert aux usages démocratisés de l'automobile. Et la première commande majeure va être une commande de taxi, et une commande de taxi qui va le porter aussi outre-Manche, à Londres, et qui va apporter à l'usine et à l'entreprise Renault, Renault Frères, dont il va devenir par fatalité biologique autour de lui, la disparition de son frère Marcel, le retrait de Fernand, et de son premier père, qui a disparu également, eh bien, il va devenir le seul porteur de cette entreprise qui va devenir vraiment son affaire, d'où son attachement toute sa vie à son usine et à son capital.
Et les taxis dont vous parlez, ce sont ceux qui vont être les taxis de la Marne, évidemment.
Alors, les taxis Renault de la Marne, qui sont en fait des taxis parisiens mobilisés par le gouverneur de la place de Paris, Gallieni, vous en avez rappelé l'anecdote, vont permettre, non pas de gagner la guerre, mais de ne pas la perdre dans un premier temps.
De stopper l'avancée allemande.
Voilà, de stopper l'avancée allemande par cette souplesse que le général Ludendorff a notée, lui, pour la fin de la guerre. Parce que la fin de la guerre, le char Renault que vous avez évoqué, sous les commandements du général Étienne, ce char Renault qui défile sous l'Arc de Triomphe en 1919, ce char Renault qui est l'emblème, le logo de la société Renault jusqu'en 1923, ceci est assez méconnu, eh bien ce char Renault, c'est celui qui permet de rompre le front. Alors que la guerre de position s'était bien établie, lors de la seconde bataille de la Marne, et la guerre est loin d'être gagnée au printemps 1918, rappelons quand même les grands enjeux géopolitiques, l'Allemagne s'est débarrassée en gagnant à l'est vis-à-vis de la Russie, et ramène désormais toutes ses forces sur le front de l'Ouest. Alors le front de l'Ouest qui change lui-même avec l'apport américain, mais qui est relativement anecdotique en termes de matériel, etc. au départ. Mais forcément, c'est Louis Renault avec son char, Berlier, par ailleurs, les camions qui avaient ravitaillé...
Les camions de Lyon.
Et qui avaient ravitaillé la voie sacrée à Verdun quelques années auparavant. Et on recroise ici le maréchal Pétain. Eh bien, entre l'été 14... 1916 Verdun et 1918, vous avez trois moments charnières où la motorisation et l'automobilisme ont permis à la France de gagner la guerre.
À 28 ans, Louis Renault est déjà millionnaire et l'une des stars de l'industrie européenne. C'est aussi un hédoniste. Par exemple, il a passé toute une année à chercher un lieu où se faire construire une immense maison, avec accès à un fleuve pour y amarrer son yacht. Ce sera Erqueville, en Normandie, la maison de tous ses week-ends. Il s'y rend évidemment en voiture et pied au plancher. À Paris, il se fait également construire un hôtel particulier absolument somptueux, Avenue Foch, dans lequel il fait installer rien moins qu'une pompe à essence, un ascenseur, des fenêtres aux volets blindés et des grilles à fermeture automatique en cas d'intrusion. Bref, rien ne résiste à cet homme, comme le notent les historiens Jean Garrigue et Emmanuel Chadeau dans cette archive de mars 1998.
Il y a d'ailleurs une description tout à fait passionnante d'un gala qui est donné à l'Opéra en octobre 34, si je me souviens bien, et qui est donné par Louis Renault autour de la projection d'un film sur l'automobile française.
C'est-à-dire sur lui. L'automobile française, c'est lui.
C'est-à-dire lui. Oui. Et lui, il est même plus que l'automobile. Je crois qu'il
est
l'industrie.
Il est l'industrie française.
Voilà. Et alors là, on voit défiler tout
le Paris extraordinaire.
Bobin,
le Paris politique.
Les intellectuels, le Paris politique, ça c'est...
Les gars des grands journaux, les grands rubricards, les Doumic, tout le monde y est. Alors les seuls qui n'ont pas pu venir, c'est des gens qui sont très malades. Poincaré est invité, il meurt le lendemain matin, donc il n'est pas venu la veille, bien entendu.
Il aurait pu
s'il était en bon état. D'ailleurs, il serait venu. Et il y a un mot d'excuse dans les archives Renault de la part de la famille, enfin de l'entourage de Poincaré, qui dit malheureusement le président est beaucoup trop malade, mais sinon il serait venu.
Mais quel genre d'homme était véritablement Louis Renault ? Eh bien, un mélange de technicien génial qui savait murmurer à l'oreille des ingénieurs et de grands bourgeois pouvant s'entretenir sans mal avec les comtes et les comtesses. En tous les cas, une personnalité qui a de quoi fasciner la société de l'époque. Dans la salle des archives, nous avons retrouvé plusieurs fois son nom, cité par un écrivain en particulier, Philippe Soupeau, une figure du mouvement surréaliste. Il était le neveu de Louis Renault et n'en gardait pas que de très bons souvenirs.
J'appartiens à une famille de constructeurs d'automobiles et j'ai entendu toute ma vie parler d'automobile parce que quand j'étais petit, à côté de la maison où j'habitais, Louis Renault avait construit sa première usine d'automobile et c'était un de mes parents et j'entendais toujours parler de ses engins extravagants et j'ai conservé une haine pour les automobiles. Je ne peux pas supporter les automobiles et j'ai même... chose extravagante, alors que je n'ai absolument pas peur en avion. Chaque fois que je monte dans une automobile, j'ai une espèce de crainte. Et par conséquent, quand je pense à mes cauchemars, c'est surtout à des cauchemars d'automobile. Il faut vous dire que j'ai eu 7 accidents, dont 3 ont entraîné la mort.
Si Soupeau n'aimait pas l'automobile, si elle lui faisait faire des cauchemars, c'est en grande partie à cause de son oncle Louis Renault, un parent terrible qu'il décrit comme étant à la limite de l'inhumanité dans son roman Le Grand Homme, où il le dépeint sous les traits du personnage de Lucien Gabart, extrait en archive.
Il avait environ 50 ans et son regard, jailli de ses yeux bruns, était sec. Son visage rude de nerveux, ses gestes fiévreux, trahissait une impatience presque douloureuse. Il parlait vite, comme quelqu'un qui doit imposer un discours et qui préfère commander. Pour lui, les hommes valent à peu près autant que les machines, les rouages, les briques qui servent à construire les hangars le plus rapidement et le plus économiquement possible. Il avait la fièvre de la vitesse. Il voulait voir grandir la grande cheminée rouge qui fumait et brillait sous le soleil comme une flaque de sang.
Que dites-vous de cette archive, Mathieu Flonneau ?
Qu'elle est évidemment très sévère, qu'elle ressort d'un écrivain majeur qui est un surréaliste, qui est à l'époque parfois pris par ses positions d'avant-garde qui sont contre la doxa de l'époque. Parce que la doxa de l'époque, c'est quand même le grand désir d'automobile et le grand désir que sait susciter Louis Renault. Mais Louis Renault est ce patron absolu, celui que d'autres biographes comme Gilbert Attri ont décrit.
Que Soupaud décrit comme inhumain, presque.
Oui, le seigneur de Billancourt, cela a été écrit de plusieurs façons. C'est toute la légende. Alors, Soupeau, là, ça nous ramène aux surréalistes et à cette lecture aussi très antipatronale que une certaine littérature développe à l'époque, où le capitalisme est vu comme absolument la bête à abattre, ce qui explique aussi des tensions en 1936 et plus tard. Et Louis Renault était évidemment une forme d'incarnation d'un personnage pas sympathique, très dur.
Ce qui était le cas, selon vous, Mathieu Flonneau ?
Je me garderai tout jugement personnel, mais il y a un point qui est intéressant dans l'archive, c'est son débit de parole qui est cité. Son débit de parole, c'est une manière d'éviter la contradiction, c'est une certitude, et il y a beaucoup de réflexions qui ont eu lieu autour de la communication chez Renault. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de sa vie, Louis Renault devient aphasique. Et donc, on est dans une autre logique, un problème avec la communication, cette fois-ci qui n'est plus de flux de parole, mais qui est au contraire une difficulté d'exprimer les choses.
Alors, il paraît qu'il disait oui à tous ses interlocuteurs pour finalement faire non, et que c'était sa manière de communiquer.
Je ne le sais pas. Toujours est-il que si l'on fait la comparaison avec son grand rival de l'époque, qui est André Citroën, eh bien c'est à la défaveur de Louis Renault. Bien sûr, il est moins séduisant, il ne reçoit pas Lindbergh, il ne fait pas de discours enflammés vis-à-vis de ses employés, Joséphine Baker ne chante pas pour lui. Bref, il y a effectivement autour de Louis Renault une dimension glamour qui est plutôt donnée à d'autres.
Alors c'est un grand bourgeois, fier de ses origines, à la culture virile, qui aime la chasse, la voile. Donc c'est quelqu'un qui vient de cette culture-là et c'est important pour lui.
Mais il ne se renie pas et on est dans une période où effectivement les catégories sociales sont très posées. Louis Renault est un grand patron avec les sociabilités et il l'est devenu. C'est un self-made man, hein, on l'a dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui sait comment il a grandi et comment il a fait grandir son usine. Cette personnalisation, elle est très importante et son action, ses possessions qui sont très importantes également. Erqueville a été cité, mais les îles Chaussée de Mer aussi sont dans les possessions de Louis Renault et beaucoup d'hôtels particuliers. Vous avez cité celui de l'avenue Foch, très spectaculaire.
Après la Première Guerre mondiale, Louis Renault va se retrouver confronté à un problème qui va lui donner des sueurs froides. On l'a dit, son entreprise a fourni à la France les munitions et les chars de la victoire. Mais Renault se retrouve, une fois la paix revenue, sans aucune voiture à vendre. Toute la recherche et développement de son entreprise s'est en effet tournée vers l'effort de guerre. Les voitures pour les particuliers ont été momentanément abandonnées. Ce n'est pas le cas chez ses concurrents, comme chez Citroën par exemple, qui se replace donc largement devant lui dans la guerre commerciale qui reprend. Renault connaît alors des années difficiles et il se promet qu'on ne l'y reprendra plus. Fabriquer des chars, d'accord, mais pas tout seul, surtout si cela doit mettre en danger son entreprise. Mathieu Flonneau, malgré ses difficultés, ce moment au fond un peu de frayeur pour son entreprise de Louis Renault, on peut dire que les années 30 vont être des années fastes pour lui. C'est même le moment où il va surpasser son rival Citroën. André Citroën ensuite va mourir, ce qui d'une certaine façon achève de faire de Renault le grand vainqueur de cette bataille.
Oui, notons que Renault avait refusé de racheter Citroën lorsque Michelin finalement l'a racheté.
Est-ce qu'on peut dire que Louis Renault c'est le parrain de l'industrie automobile dans l'entre-deux-guerres ?
Alors le parrain au sens mafieux, là, vous iriez un peu loin. En tout cas, c'est celui qui, à la Chambre des constructeurs d'automobiles, est président. C'est celui qui vise à asseoir ce capitalisme nouveau, qui est un capitalisme fondamental pour les années folles et la croissance économique française, et même pendant la crise économique des années 30. Le mot parrain...
On va dire le pape, alors.
Voilà, bah alors je préférerais cette expression, parce que il y a effectivement des résonances qui sont... et pape de surcroît, c'est une religion. L'automobile, c'est une religion. Et c'est pour ça que je rebondis encore une fois sur Soupeau. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont loué l'automobile. Beaucoup d'écrivains y ont vu une source d'exaltation, de valeurs qui n'ont rien de médiocre. Et là, Soupeau déroge, en quelque sorte.
Mais si c'est le pape, c'est aussi parce qu'il est extrêmement puissant, si puissant qu'il arrive à faire déplacer la mairie d'Erqueville afin d'agrandir son domaine personnel à la campagne, et aussi ce qui lui permet de racheter une à une donc toutes les parcelles de l'île Séguin à Billancourt, qui lui appartient d'ailleurs en propre et pas simplement à son entreprise. Il faut dire un mot peut-être de cette énorme usine sur l'île Séguin qui compte même une centrale électrique.
Alors 30 000 employés, il faut quand même avoir une petite idée de ce que c'est l'usine et l'ensemble industriel de Boulogne-Billancourt qui court jusqu'à Meudon, hein. On traverse la Seine et Louis Renault, les historiens spécialistes de la question ne s'y sont pas trompés, Louis Renault n'a pas toujours fait dans les règles légales, il a fait des voies de fait, il est en quelque sorte maître de l'espace et une usine qui atteint et dépasse même les 100 hectares, il faut avoir cette idée de l'empreinte dans le paysage urbain que représente un tel colosse industriel. C'est une ville tout à fait comparable à ce que les Américains et Ford à Dearborn ont mis en place à Rouge River. Vous êtes là devant quelque chose qui est effectivement marquant et surtout qui est productif. Et cette dimension productive, on a tendance à la perdre de vue, mais il y a eu un âge d'or de la production automobile, il y a eu un âge d'or de ces cols bleus dans l'industrie, hommes et femmes réunis, parce que les demoiselles de Javel avaient leur équivalent chez Renault. Bref, on était Renault. C'est un mode de vie.
Outre l'automobile, c'est l'aviation qui est la grande industrie de ce début de XXe siècle. Louis Renault, qui aime la vitesse et les défis, est évidemment attiré par les avions et il s'associe à l'entreprise des frères Caudron. Nous avons retrouvé la voix de l'un des deux frères enfoui dans la salle des archives où, malheureusement, ne figure pas celle de Louis Renault.
Caudron, je ne sais pas si ce nom vous rappelle quelque chose, mais Caudron, c'est le grand nom de l'aviation française. Je ne sais pas, moi je pourrais parler peut-être du Rafale, Hélène Boucher, enfin les grands records. Et puis aussi un appareil extraordinaire qui a volé récemment, et qui est un appareil historique, qui a volé en 1913, qui était un appareil d'observation d'artillerie pendant la Grande Guerre, c'était le G3. C'est bien ça, monsieur Caudron?
C'est bien exact, oui, c'est le
G3. Est-il vrai que vous avez été surpris de voir voler récemment dans le ciel de Paris un G3?
Oui, tout à fait surpris. Un jour au pont de Sèvres, j'étais en voiture tout le long du parc, puis j'aperçois un G3 en l'air.
Vous êtes dit, ça y est, je suis parti 20 ans en arrière.
C'est invraisemblable, c'est pas possible. J'ai arrêté ma voiture, je suis descendu et j'ai regardé passer.
Et c'était à quelle époque, ça?
À 36.
On peut dire que vous êtes un précurseur, M. Caudron.
Un peu.
Mathieu Flonneau, un commentaire sur cette archive?
Ben, c'est tout l'imaginaire de Saint-Ex, hein. C'est tout l'imaginaire des débuts d'Air France, dans lesquels Louis Renault eh bien, prend des parts, et la société Caudron, comme motoriste, Renault est évidemment très actif. Ceci jouera au début aussi de la Seconde Guerre mondiale.
Parce qu'il faut comprendre que Renault, c'est une entreprise, mais c'est un trust, c'est-à-dire qu'il maîtrise quasiment toute la chaîne de ses sous-traitants, y compris donc les usines électriques pour fournir l'électricité, mais aussi les fonderies, plus les entreprises d'aviation, qui sont donc les start-up de l'époque, pour reprendre
la métaphore. C'est totalement intégré, vous avez raison, c'est totalement intégré. Et là où Louis Renault a un rôle dans cette société de l'automobilisme naissante, c'est que Louis Renault s'intéresse aussi aux tracteurs, s'intéresse aussi aux transports en commun, avec des autocars, les TN célèbres de l'entre-deux-guerres. C'est une motorisation générale de la société française, qui touche les milieux urbains, mais également les milieux ruraux. Et là, c'est une transformation majeure, c'est une généralisation du fait automobile, donc l'automobilisme, l'automobilisation de la société française.
La toute-puissance industrielle de Renault dans les années 30 correspond pourtant au début de son déclin physique. À 57 ans, il apprend qu'il est atteint d'une maladie chronique et grave, une maladie cérébrale qui rend sa parole moins aisée et son caractère plus difficile. Au fur et à mesure que la maladie va gagner du terrain, il deviendra même franchement tyrannique. En 1918, les Français ont donc payé un très lourd tribut sur les champs de bataille de la Grande Guerre et ils aspirent, on les comprend, à une vie meilleure. Les luttes pour les congés payés incarnent ces nouveaux désirs. Mais comment ce patron à poigne qu'est Renault va-t-il réagir quand ses ouvriers vont se lever en masse en 1936, au moment du Front populaire ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir au cours du prochain épisode.